Ok, donc très 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 content d'être parmi vous ce matin. Et un grand merci pour vos prières et pour votre amour. Je suis un miraculé hein, pour ceux qui... Je dis ça pour les nouveaux parce que voilà, j'ai eu quelques mois un peu particuliers et je suis en situation de reconstruction physique. Le miracle continue. Alléluia. Voilà. Alors, là, vous avez une image sur Noël. Donc, la première venue de Jésus, quand Jésus est venu, du moins, en tant qu'homme sur cette terre. Et Johanna nous partageait que c'était le début d'une immense promesse. Voilà, et qu'au début, ça a commencé petit, voilà, hein, pour de grandes promesses. Et la première venue de Jésus... La Bible nous parle aussi d'une deuxième venue, ce qu'on appelle communément le retour de Jésus sur terre. Et lorsque la Bible parle du retour de Jésus-Christ, elle en parle comme du Seigneur qui vient chercher son Église, qui vient chercher ce qu'il appelle son épouse, qui s'est préparée pour l'accueillir. Simplement dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux passages dans l'Ancien, mais simplement dans le Nouveau Testament, il y a plus de 300 passages qui nous parle de Jésus qui va revenir, le retour de Jésus. Voilà. Ok. Ceci étant dit, ça marche, c'est formidable. Voilà. Ok. Alors, ces derniers temps, j'ai été très interpellé par ce passage de l'évangile de Matthieu où Jésus dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. Le vin nouveau, Johanna vous a parlé un petit peu de cela, le vin nouveau, c'est l'onction de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. Et puis, les outres neuves, ce sont les églises. Et les gens doivent changer, c'est le réveil. Et puis, les églises doivent changer. C'est ce qu'on appelle communément les réformes. Onction du Saint-Esprit, vin nouveau du Saint-Esprit, et puis la réforme, les réformes. Beaucoup de réveils se sont arrêtés dans l'histoire parce qu'on n'a pas osé proposer, osé implanter, osé construire des outre-neuves, des églises selon la parole de Dieu. Pourquoi ? Par peur, par tradition religieuse, par aveuglement, par un désir parfois orgueilleux de pouvoir et de domination, parce qu'un système pyramidal, ça veut dire une personne qui commande, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, voilà, hein, ou tout simplement par un manque de connaissances bibliques. Le prophète Osée disait dans l'Ancien Testament, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Martin Luther n'a pas osé aller jusqu'au bout de sa réforme, on le sait, par crainte que les princes allemands l'abandonnent et le rejettent. On sait que John Wesley et Charles Wesley, je dis ça pour les anglophones, n'ont pas osé aller jusqu'au bout du réveil méthodiste, qui était absolument quelque chose de formidable, qui a complètement changé et bouleversé la société anglaise et britannique. Mais ils sont restés enlacés dans les traditions religieuses et la liturgie de l'église anglicane de l'époque. Les réveils qui ont le plus impacté à long terme l'histoire de l'Église sont les réveils qui ont proposé des outre-neuves, qui ont osé réformer les Églises, des Églises neuves construites selon la parole de Dieu. Alors bien sûr, on ne va pas faire toute une liste de cela, mais on sait que c'est vrai pour la France, par exemple des réveils avec les Vaudois en plein Moyen-Âge, en pleine persécution en France et en Europe. Les Moraves au XVIIIe siècle en Europe et à travers le monde. Et puis là, je vous mets une image que j'aime énormément. C'est un dessin qui a été fait d'époque. Le fameux réveil de Cambridge en août 1801 aux États-Unis avec Barton Warren Stone. Ici, on voit Barton Warren Stone qui prêche sur sa fameuse souche d'arbre. Barton Warren Stone, William G., John G., son frère, etc. Un réveil qui s'est répandu et qui a démontré et réexpliqué au monde ce qu'étaient des églises bibliques. On est un peu tous les héritiers du réveil de Cambridge. L'église est censée refléter le cœur de Dieu, le caractère de Dieu, les façons de faire de Dieu. Dieu a toujours travaillé en équipe, on le sait ça, fonctionné dans une trinité éternelle, Père, Christ et Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Hein, voilà. Une pluralité des ministères à la tête de l'église locale, des ministères fonctionnant à égalité d'autorité, président ensemble et où chacun exerce son ministère selon les dons qu'il a reçus de Dieu. Ce travail d'équipe, ce travail relationnel forme les caractères, permet de développer les dons de chacun, permet d'enrichir chacun spirituellement, de fortifier mentalement chacun et surtout cela met aussi un dôme de protection. Une équipe de ministère, on se protège les uns les autres dans tout ce qu'il y a comme guerre spirituelle et combat spirituel. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous mettre, vous voyez ce que j'ai écrit en petit là, c'est une des réflexions les plus stupides de ma vie que j'ai entendue, mais qui quelque part a été diffusée dans l'église de Jésus-Christ pendant des siècles. C'est le fameux « primus inter pares ». Je l'ai mis en latin parce qu'on l'a souvent cité en latin. Ce texte qui veut dire « le premier parmi les égaux ». Avec ça, vous dites « oui, on travaille en équipe de ministère, on est tous égaux, mais il faut un premier parmi les égaux ». Avec ça, on a fait des papes, on a fait des archevêques, on a fait des évêques, on a fait des pasteurs principaux dans les églises. Mais là, on n'est pas dans la Bible. Je répète, une des réflexions les plus stupides que j'ai entendues, c'est primus inter pares. Vous en souviendrez ? Voilà, vous aurez fait au moins du latin ce matin. Voilà, ok. Alors, voilà. Pas de dénomination dans la Bible, pas de fédération d'église, pas d'étiquette spéciale, mais des églises évangéliques autonomes, en relation avec tout le corps de Christ, sans exception. Cela fait partie de l'identité de notre église. Si cela était oublié ou négligé, le Saint-Esprit serait énormément attristé et l'onction du Saint-Esprit se retirerait. Ça, c'est une grande vérité pour cette Église. La notion de réveil, on parle de réveil, en fait, le mot réveil tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il a été utilisé dans le monde anglophone seulement, je crois, en 1702. Mais en fait, le mot réveil, c'est un mot, Johanna en parlait un petit peu, c'est un mot assez inadapté parce qu'en fait, c'est la vie chrétienne normale. Le réveil, c'est la vie chrétienne normale. Hein ? Et puis, autrement, c'est le sommeil. C'est le manque de consécration. Voilà. Hein ? En fait, on est censé être toujours réveillé. Hein ? Voilà. Hein ? Dans tous les vrais réveils, il y a toujours eu une réelle attente du retour de Jésus. C'est une caractéristique des réveils. On a entendu les retours de Jésus. Dans le réveil des temps de la fin, de nombreuses églises locales seront transformées. Il y aura de nombreuses outre-neuves, des églises qui sont habituées à fonctionner depuis des années, des décennies, peut-être des siècles, d'une certaine façon, vont être encouragées, poussées, stimulées par Dieu pour revoir complètement leur fonctionnement. Et celles qui résisteront vont être vraiment dans une situation spirituelle dramatique. Certaines vont carrément disparaître. La grande et universelle Église de Jésus-Christ à travers le monde, l'épouse du Christ, sera embellie et transformée avant le retour de son Seigneur. Le corps de Christ fonctionnera d'une façon glorieuse et selon la parole de Dieu, l'Église de Jésus-Christ sera comme une vaste outre neuve remplie du vin nouveau du Saint-Esprit. Alors, j'ai eu dans ma vie l'occasion de vivre plusieurs réveils, et lorsque j'ai rencontré le Seigneur en juin 1973, hein, Christophe, voilà, hein, et donc j'étais à Besançon, et quelques mois, on pourrait dire quelques semaines après ma rencontre avec Dieu, il s'est passé quelque chose, c'était la guerre du Yom Kippour, c'est-à-dire c'est cette fameuse guerre éclair du 6 au 24 octobre 1973, où Israël est attaqué à la fois par l'Égypte, par la Syrie et par d'autres pays autour, et où Israël va répondre et sera sur le point d'arriver au Caire. Et ce sont on va passer l'histoire, ce sont les Russes et les Américains qui disent surtout aux Israéliens, non, non, ne prenez pas le Caire, ne prenez pas l'Égypte. Hein, voilà. Et donc cette guerre s'arrêtera. Mais en tant que chrétien, je m'en souviens, la guerre du Yom Kippour, on voyait comme les prophéties se réaliser sur ce qui se passait en Israël. Honnêtement, c'était une période où dans les églises, on parlait du retour de Jésus, mais tout le monde parlait du retour de Jésus. Les gens s'attendaient au retour de Jésus. Je me souviens d'un serviteur de Dieu que j'appréciais beaucoup, un serviteur de Dieu vraiment formidable. Et un jour, il a été sur sa terrasse le soir, et puis il avait une telle impression d'une présence de Dieu, il s'est dit, c'est ce soir, il revient ce soir. Il a attendu là sur sa terrasse, il faisait nuit, il a attendu, et puis finalement il est rentré, il a été se coucher, Jésus n'est pas revenu ce soir-là. Mais c'était pour vous dire qu'il y avait comme une... On attendait le retour de Jésus-Christ. Je vais vous montrer quelques images. Je vous ai mis quelques images de cette guerre du Yom Kippour. Voilà. Alors, ceux qui sont un peu plus âgés parmi nous, vous souvenez peut-être de cette guerre, voilà, dont, bien sûr, on parlait abondamment dans les médias. Voilà. Hein. Je vais vous dire quelques mots aussi sur un réveil que j'ai connu lorsque j'étais au Cameroun avec une équipe de 2 évangélistes. On a eu l'occasion d'aller évangéliser dans une tribu au Cameroun qui s'appelle toujours les Koma, dans les monts Alantika. C'est une région... Il y a des Camerounais ce matin ici, parce qu'il y en a dans l'église, je sais. Est-ce qu'ils sont là, les Camerounais, ce matin? Oui? OK, voilà, c'est super. Hein? Donc, c'est une région de l'Adamawa, au Cameroun, et c'est une région qui est à cheval entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a à peu près 38 villages, et puis il y en a 21 qui sont au Cameroun, donc on allait évangéliser, on passait la frontière comme cela, voilà. Hein, et on a vécu beaucoup de miracles, on a vu des villages entiers se tourner vers le Seigneur. On a vécu dans le miracle quasiment permanent. Les gens vivaient, on va dire, dans un état extrêmement primitif. Ils n'étaient habillés que de quelques feuilles, voilà. Hein, et puis on mangeait, on buvait, on prenait par la foi ce qu'il est dit dans l'évangile de Luc, quand vous allez dans une ville, mangez tout ce qui sera devant vous. On buvait, on mangeait, on n'a pas été malade, l'eau était claire comme la couleur de ma Bible, d'accord? Ben oui, mais au moins il y avait de l'eau. Hein, voilà, alléluia. Et puis, on savait que les gens étaient extrêmement pauvres, alors on avait préparé avec nous, on emmenait avec nous, on avait une grosse boîte comme cela, voilà, une grosse boîte, j'allais dire, de bébé hollandais, mais c'était pas un bébé hollandais qui était dedans, c'était du lait en poudre. Et puis, bien sûr, on avait enlevé le lait en poudre, on avait gardé la boîte de ferraille de bébé hollandais, puis on avait mis du riz dedans. Mais comme on était 3 évangélistes, jeunes, beaux et dynamiques, on marchait des heures par jour d'un village à l'autre, voilà. Alors, bien sûr, on mangeait beaucoup, et en un temps record, la boîte, elle était, ou presque, il restait rien, pratiquement une petite poignée comme ça. Et tous les jours, on prenait du riz, et la nourriture se multipliait, et on a pu manger, autant qu'on en a voulu. Voilà. Donc on a vécu des miracles. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vais vous montrer encore quelques photos. Là, vous voyez, par exemple, j'en ai parlé l'autre jour dans une réunion. Là, c'est une jeune femme avec son bébé, et vous voyez qu'il lui manque les 2 incisives. Alors, je vais vous expliquer, c'est une tradition qu'on ne fait pas dans l'église, mais enfin, voilà, toutes les jeunes femmes au mariage, on leur enlevait les 2 incisives de devant. C'était une marque de soumission, elles ne pouvaient pas mordre leur mari, voilà, alors, mais on ne pratique pas dans l'église, hein. C'est bon, regardez le journal, à garder ses dents. Voilà. Voilà. OK. En tous les cas, tout ça pour dire, voilà, ici, par exemple, vous voyez une équipe, les gens qui sont habillés, ce sont des évangélistes, voilà, qui venaient de la région où j'étais, de Ngaoundéré. Voilà, hein. Et puis là, par exemple, il y a un appel et ils lèvent tous la main. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, on aimait annoncer l'évangile le soir. De toute façon, on annonçait l'évangile tout le temps. Mais on annonçait l'évangile le soir lorsque les gens revenaient des champs. Et puis, ils faisaient des grands feux. Et puis là, autour du feu, on annonçait l'évangile. Et bien sûr, on annonçait l'évangile. Jésus qui vient, la croix, etc., etc. Et puis, bien sûr, on parlait du retour de Jésus. Et je me souviens de ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui est resté dans ma tête. C'est-à-dire, quand on parlait du retour de Jésus, ce qui allait se passer au moment du retour de Jésus, les gens très spontanés découvraient tout l'évangile. Hein. C'était des gens, les sorciers se convertissaient, les villages se convertissaient. C'était formidable. Les sorciers qui étaient de vrais sorciers. Hein. Ils avaient découpé à la hache un traducteur dans une équipe qui était montée un petit peu plus haut, hein, un petit peu plus tôt, voilà. Et puis, lorsqu'on parlait du retour de Jésus, les gens, oh, ils pointaient le doigt vers le ciel, oh, puis ils cherchaient dans le ciel, au milieu des étoiles, pour voir s'ils voyaient Jésus. Ils s'attendaient au retour de Jésus. Lorsqu'il y a réveil, on s'attend au retour de Jésus. Toujours, il y a ça dans le cœur. Hein. Alors, ces derniers temps, j'ai relu l'Apocalypse et j'ai été frappé par ce verset. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Formidable ça, hein. Aujourd'hui, en France, je pense que d'une façon générale, l'Église n'est pas prête. Elle est en train de se préparer. Mais aujourd'hui, en France, d'une façon générale, l'Église ne dit pas « Viens Seigneur Jésus ». On fête Noël parce qu'il est venu, mais combien sont prêts aujourd'hui pour son retour? Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais si Jésus revenait, par exemple, allez, on va dire, dans 2h30, il vous reste dans quelques 2h30, voilà. Qui pourrait dire, voilà, ah ben moi je suis absolument prêt. Je peux regarder Jésus dans les yeux en disant, voilà Seigneur, je suis prêt, je pars. Alors, ne levez pas la main, mais... Hein, voilà. Alors... je vous montre quelques images parce que c'est la fin de l'année, c'est voilà, hein, d'accord. Alors j'ai mis cette image sur le présentoir qui est là-bas, vous pourrez la voir. J'ai changé un peu les citations en bas et j'ai mis ce verset. Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations, disait Jésus. Alors viendra la fin. Je vous ai mis, j'ai fait un petit montage avec une Bible de Gutenberg que j'ai photographiée dans un musée à New York. À l'époque de la Réforme, le célèbre humaniste hollandais Erasme, en 1522, disait « Je désirerais, 1522, je désirerais que l'Évangile soit traduit en toutes les langues. » Et aujourd'hui, vous le voyez, la Bible entière est traduite en 776 langues. Et regardez, la Bible entière, le Nouveau Testament ou des passages de la Bible, le tout fait que la Bible est traduite en tout ou en partie. On a passé le seuil des 4007 langues. Des 4000 langues. Ça, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau. 4007 langues, c'est-à-dire que il y a 7,7 milliards de personnes, soit 99% de la population mondiale qui peut avoir au moins une partie de la Bible dans sa propre langue. Ah non, il faut comprendre ça. Hein. Et aujourd'hui, il y a des équipes, il y en a environ 140, qui font des traductions de la Bible sur 4457 langues, mais certaines sont des révisions, des mises au point, des petites corrections. Mais on travaille bien sûr sur les langues nouvelles. Et je vous ai mis là, tout en bas, une réflexion qui m'a beaucoup touché de l'association mondiale Wycliffe, qui avec l'Alliance biblique universelle, l'association Wycliffe traduit donc la Bible. Ils disent ceci, qu'il reste en ce moment 544 langues sans travaux, ce qui représente 36,8 millions de personnes. C'est quasiment rien. Et ils ont eu cette réflexion, donc il reste en août, au mois d'août, hein, il restait 544 langues sur lesquelles il n'y avait aucun travaux de traduction. Et ils disent ceci, ils ont dit ceci, Wycliffe, à moins d'un miracle, au mois d'août, ils ont dit ça, hein, à moins d'un miracle, cependant, toutes les langues ne pourront pas être touchées d'ici la fin de 2025. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont réfléchi et il y a un moment, ils se sont dit peut-être qu'avant, ils disent ça en août, hein, peut-être qu'avant la fin 2025, toutes les langues seront traduites. Et puis finalement, j'ai dit non, il faudra un vrai miracle. Alors ça veut dire que dans des temps très proches, toutes les langues auront une traduction au moins partielle de la Bible. C'est énorme ça. Hein, un an plus tôt, 2024, il restait 985 langues sans aucun travail de traduction. C'est-à-dire qu'en un an, on en a fait 441. On a fait 23 Bibles entières et 95 Nouveaux Testaments entiers en un an. Et en tout, 441 langues. C'est clair, mais je dirais que c'est presque émouvant. Jésus est à la porte, il prépare son épouse. Pour vous donner une petite idée, en l'an 2000, il y avait 2261 traductions de la Bible, en tout ou en partie. Et c'est-à-dire qu'en l'an 2000, c'est-à-dire qu'en 2025, on en a presque 2000 de plus. Ça va très vite. Alors là, est-ce que Pierre Joly est là ce matin? Il n'est pas là? Non? Ok, alors je vous montre une image, parce que ça c'est une image, une photo qui a été prise en 2009. En 2009, il y avait 459 Bibles entières dans le monde qui étaient traduites, donc aujourd'hui il y en a 776, et c'est une Bible en népalais. Et c'était la première Bible en népalais. Le Népal, où il y a 123 langues qui sont parlées quand même. Hein. La première langue, c'est le népalais, mais il y en a d'autres, comme le tarou, le tamang, etc. Et là, vous voyez une Bible complète en népalais. Je vous montre une autre image. Alors ça, c'est pour vous montrer comment travaillent les équipes de traducteurs. Vous voyez un monsieur là, avec son ordinateur, bien sûr. Et ça, c'est une équipe de traducteurs en Waka, au Nigeria. Alors pourquoi je mets ça? Parce que c'est une petite tribu, mais qui ont déjà une partie de la Bible. Et il y a seulement 9300 personnes dans cette petite tribu. Et elle est proche de la tribu des Koma, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Pour ceux qui sont du Cameroun, c'est à peu près à la même latitude que Garoua. Tu vois où c'est? Non? Non, ça vous dit rien? Non? Ok, bon, en tous les cas, là je vais vous montrer encore une autre image. Alors ça c'est encore le Cameroun, décidément, et ça, cette photo, elle date du 30 août 2024, où des milliers de personnes se sont rassemblées au Cameroun, dans la région de Bamenda, pour ceux qui connaissent, voilà, et là, c'est la consécration historique du Nouveau Testament en langue Mankon. Et là, vous voyez, donc, on présente au chef traditionnel, Mankon, on lui présente le premier Nouveau Testament en langue Mankon. C'est 1000 exemplaires vont être distribués ce jour-là. Ça avance, hein. Jésus est à la porte, tout va très vite. La fameuse intelligence artificielle, on s'en sert pour les traductions. Mais quand il s'agit de traduction de langues complètement nouvelles que personne ne connaît, hein, l'intelligence artificielle est faite avec des statistiques, avec des choses qu'on lui met dedans. Si on ne connaît rien, on ne peut rien mettre dedans. Alors en fait, l'intelligence artificielle, elle aide à faire des brouillons, de mauvais brouillons. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les MTT, c'est-à-dire les traducteurs de langue maternelle qui travaillent là-dessus pour faire une bonne traduction. Voilà. Une grande multitude de gens vont se tourner vers le Christ dans les années à venir. Beaucoup auront une Bible ou une partie d'une Bible sous le bras, un Nouveau Testament ou un Évangile. Ce mouvement de Dieu a déjà commencé à travers le monde. Jonah m'a envoyé une prophétie de Rick Joyner, hein, qu'il a reçue en 2025, qui reprend la moisson, pour ceux qui ont lu la moisson que Rick Joyner a reçue, je crois, en 94, par là, hein, 1994. Et il a reçu quelque chose qui équivaut à peu près à la moisson et qui parle, bien sûr, d'une grande multitude de gens qui vont se tourner vers Dieu dans les temps qui viennent. Hein, le mouvement est déjà en route. Et Dieu nous demande d'être à son écoute et de nous laisser transformer par lui pour entrer pleinement dans ses plans. Du vin nouveau dans des outres neuves. L'heure n'est plus au calcul humain, traditionnel, j'allais dire au calcul traditionnel, minable, léger et charnel. Aujourd'hui, Dieu déverse son vin nouveau, est en train de réformer son église, du vin nouveau dans des outres neuves. Ok. Alors, deuxièmement, l'iniquité contre la lumière. Je vous ai mis ce verset de Matthieu 24 où Jésus dit « Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Il est fort ce verset, hein? Il y aura des multitudes qui vont venir à Jésus, mais il va aussi y avoir des multitudes qui vont être refroidies. L'amour de plusieurs sera refroidi. Celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible nous dit que le mal sera appelé bien et que le bien sera appelé mal. C'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Cette semaine passée, j'ai eu un long moment au téléphone avec un de mes amis qui est pasteur d'une église assez importante. Et il m'expliquait que dans son église viennent des gens qui sont mariés et qui se présentent comme de bons chrétiens, qui veulent prendre la scène, qui participent pleinement, qui veulent participer du moins pleinement à toutes les activités et les responsabilités de l'église, alors que ces personnes sont mariées, mais du même sexe. Et bien sûr, dans nos églises arrivent de plus en plus de personnes ayant des problèmes de toutes sortes et de tout genre. Elles viennent du monde, traînant avec elles les problèmes du monde, comme le monde. Le mal sera appelé bien, et le bien sera appelé mal. L'Église doit aimer ces gens, doit les aider, mais selon des normes et des moyens en accord avec la parole de Dieu. L'iniquité prévaudra, mais au milieu de tout cela, nous sommes la lumière du monde. C'est un combat entre les ténèbres et la lumière. Je vous ai mis ce verset bien connu dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise au milieu des gens, en sorte qu'ils glorifient Dieu et qu'ils rentrent dans une relation avec un merveilleux Père céleste. Dieu nous demande de rentrer dans une relation personnelle, une relation vivante, une relation d'intimité avec un Père céleste magnifique et glorieux. Alors, je sais bien sûr, quand on parle de Père, beaucoup de gens ont eu des Pères terrestres défaillants, des Pères terrestres parfois absents, ou des Pères violents, des Pères impurs. Mais la Bible nous dit que plus nous grandissons dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa personne et de son caractère, plus nous grandissons dans la connaissance du Père Céleste, et plus nous sommes dans l'émerveillement devant lui, et alors émerveillés par lui, nous sommes transformés par lui. Quel que soit notre contexte familial, quel que soit notre passé, la solution, c'est toujours une relation, une communion avec Dieu. Les chrétiens sont des gens émerveillés, émerveillé par un Dieu merveilleux, et en étant émerveillé par Dieu, le Saint-Esprit fait son travail de transformation. Ça, c'est plus fort que tout et plus fort que le péché. La première chose pour être vainqueur du péché, c'est de soigner sa relation avec Dieu. C'est de grandir dans la connaissance de la personne de Dieu et d'être ébloui et d'être émerveillé par lui. Être émerveillé par le Christ, c'est important de comprendre que nos péchés, nos perversions, nos mensonges, nos méchancetés ont provoqué à la croix de graves douleurs et de puissants tourments au Christ crucifié pour nous. Souvent, lorsque les gens commencent à prendre conscience de leurs péchés, ils sont affligés du mal qu'ils ont causé à leur propre vie, ou bien ils sont affligés du mal qu'ils ont causé à la vie de leurs proches. Mais rarement, ils se rendent compte des souffrances et des douleurs qu'ils ont ainsi provoquées au Christ sur la croix. Le Christ a souffert pour tes péchés. Il a été meurtri et blessé pour tes iniquités. Le sang du Christ, le sang du Dieu vivant, a été versé pour tes péchés. Et le Christ est mort pour que tu puisses vivre aujourd'hui une vie nouvelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le terme réveil implique des gens émerveillés par Dieu et donc transformés par lui. Les caractères émerveillés devant la personne de Dieu sont transformés par Dieu. Je voudrais vous raconter aussi quelque chose. Le samedi 30 décembre 1995, à 11h55, la CBM a connu une véritable visitation de Dieu. Le Saint-Esprit descend avec puissance sur une réunion avec les serviteurs de groupe de maison. Tout le monde fut visité d'une façon extraordinaire et puissante. Tout le monde sauf une personne. Nous saurons plus tard pourquoi. Voilà. Ce réveil va commencer en 95 et il va durer environ 5 ans. Il aurait pu continuer plus, mais bon, le sujet n'est pas là. Quelque temps après cette visitation, en plein réveil donc, arrive dans l'église une famille avec plusieurs enfants. Un soir, le papa vient me voir à la maison, chez moi, et je ne connaissais rien de leur situation, je n'avais pas parlé avec eux du tout de leur situation, ils n'avaient parlé avec personne de l'église de leur situation. En fait, le papa et la maman n'étaient pas mariés, et tous les deux avaient fait une démarche avec Dieu. Et ils avaient discuté entre eux, ils avaient pris la décision de se marier. Donc ils m'ont dit, voilà, on voudrait se marier. Et ils voulaient en même temps être un exemple pour leurs enfants. Ils avaient 3 enfants. Ils voulaient être un exemple pour leurs enfants. Ils disaient, on ne peut pas rester comme cela. Et puis, ils disent que, ils pensent que, comme ils vivent là, Dieu n'est pas d'accord. Alors ils ont réfléchi, ils ont discuté entre eux. Et puis le monsieur me dit, voilà, on a pris la décision de vivre séparément pendant 2 à 3 mois, le temps de préparer le mariage, mais pour bien préparer notre vie nouvelle et pour être un témoignage à nos enfants et un témoignage aux gens qui sont autour de nous. Le résultat, c'est qu'ils vont faire cela. Ils ont trouvé dans la famille une situation où l'un des deux pouvait vivre séparément. Quelqu'un d'ailleurs dans l'église aurait pu aussi les héberger. Leur témoignage ensuite, c'est que cela leur a fait un bien excellent, a renouvelé leur amour et leur estime et leur respect l'un pour l'autre. Et ça a été un formidable exemple pour les enfants. Que je me souvienne, parce qu'on en a eu des cas comme ça, nous ne demandions jamais aux personnes, à cette époque-là, de se séparer en attendant le mariage. Ça se faisait automatiquement. C'est aussi cela le réveil. Parfois, nous sommes légers et nous jouons avec la sainteté de Dieu. Nous n'y gagnons rien. J'aimerais m'adresser à tout le monde, mais ici surtout aux jeunes. Nous savons que les jeunes aujourd'hui, avec leur téléphone portable, ont accès à des sites multiples, dont certains sont extrêmement violents et remplis d'impureté. Souvent de nos jours, vous le voyez, j'ai encore écouté les informations hier, dans notre société, des scènes d'une extrême violence, voire de meurtre, sont perpétrées par des jeunes, par des adolescents, qui parfois ont une douzaine d'années ou même pas. On se demande où sont les parents. Hein. Les jeunes, dès l'âge de 12 ans, et parfois bien plus tôt encore, sont plongés dans une pornographie extrême, filles et garçons. Si tu en es là, tu as besoin de délivrance. Et tu as besoin de reconstruire de nouveaux schémas de pensée saines et purifiés et de nouvelles habitudes de vie. Tu as besoin de soigner ta relation avec Dieu et de grandir dans la connaissance de Dieu. n'hésite pas à parler de cela avec ton serviteur de groupe de maison, ou ta servante de groupe de maison, ton responsable de jeûne, ou d'en parler avec un des ministères de la CBM. Cette dépendance à la pornographie, à l'impureté, est un problème également chez beaucoup de personnes que l'on appelle à tort des adultes, mais qui ne sont pas adultes, dans la façon de gérer leurs pensées. Renonce aux impuretés, aux mensonges, aux tromperies, aux calomnies, aux médisances, aux méchancetés et surtout à tout mysticisme déséquilibrant. Applique-toi à des pensées saines et pures selon Dieu, à des pensées de bonté et de pardon. Construis de nouveaux schémas de pensée et construis de nouvelles habitudes de vie. Grandis dans la connaissance de la personne de Dieu et dans le caractère de Dieu et tu seras victorieux du mal. Règne en Jésus. Si tu as trompé ton conjoint, confesse-lui ton péché et demande-lui pardon. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas cacher un tel secret, une telle pourriture au fond de ton âme. Cela provoquerait des catastrophes dans ta vie. Nous sommes prêts, en tant qu'équipe pastorale, à t'aider dans ta démarche. Vis dans la lumière. Travaille à construire et à solidifier ton couple. Travaille à construire ta famille. Je veux dire que ces dernières années, je dis bien ces dernières années, les personnes qui sont venues nous trouver pour exprimer une volonté de divorce ne redonnaient pas une pensée venant du Saint-Esprit, mais entretenaient réellement des pensées qui venaient tout simplement du diable ou qui étaient carrément démoniaques. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. J'aimerais lire avec vous quelques passages bibliques, simplement sans trop les commenter, mais des passages qui m'ont touché. Et je dirais simplement, soyez attentifs à la force de ces paroles. Matthieu 24, Jésus dit ceci. « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ils ne connurent rien. Une traduction dit, ils ne comprirent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Un autre passage dans Luc 17. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Luc 17 dit aussi, je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, ça ne veut pas dire que chaque fois c'est un sur deux. Bien sûr que non, hein, c'est un exemple. C'est intéressant là parce que ce passage nous montre que Jésus explique bien que la terre est ronde. Certains travaillent dans les champs et puis d'autres sont au lit en train de dormir. Hein, voilà. En tous les cas, la fin des temps arrivera comme cela, soudainement. La première venue de Jésus est venue à un moment où certaines personnes veillaient. On le sait, par exemple, lorsque Jésus est venu, Siméon, veillait, Anne veillait. Mais beaucoup de gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Hein? Et la deuxième venue de Jésus, Jésus dit ceci, « Veillez donc, car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts. Car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Malgré tous nos calculs, toutes nos prévisions, le Christ reviendra à un moment que nous n'avons pas prévu. et il deviendra soudainement. Durant le réveil du pays de Galles en 1904, on sait qu'en quelques mois, en 3 mois, 100 000 personnes ont donné leur vie à Dieu. Et les gens se tournaient vers Dieu simplement dans les rues, tombaient à genoux dans les rues, simplement en regardant marqué sur les autobus, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Se préparer à la rencontre de Dieu, se préparer au retour de Jésus. Je vous ai mis aussi dans 2 Timothée cette parole de l'apôtre Paul où il dit ceci peu avant d'être exécuté. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Dieu nous demande d'apprécier, d'aimer son apparition, d'aimer son retour, de désirer et d'aimer son retour. Je repose la question, ne levez pas les mains, qui est prêt pour son retour? Si tu fêtes Noël, c'est un début, mais ça veut dire qu'il y aura une deuxième venue de Jésus. En fêtant Noël, je me prépare à la deuxième venue de Jésus. Qui peut dire honnêtement, viens Seigneur Jésus, viens maintenant. Il ne s'agit pas de plonger, bien sûr, dans une culpabilité morbide, mais d'avoir une juste notion de l'amour et de la grâce de Dieu, d'apprendre à aimer, à respecter Dieu, et d'apprendre à aimer, à respecter son prochain. Une réalité, la parole de Dieu nous parle d'une grande vérité. Il y a une éternité. Tout être humain est éternel. Les bons comme les méchants. Tout le monde est éternel. Mais tout le monde n'aura pas la même éternité. On le sait, ça. La Bible parle d'un paradis et la Bible parle d'un enfer. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais le mot enfer, il n'est pas dans la Bible. Oui, Samuel, le mot enfer, il y a du mot latin infernus, qui veut dire inférieur, en dessous de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Mais l'idée est là. Hein, c'est Éphésiens 4, ça. Hein. Il y a environ 40 termes dans les Saintes Écritures pour désigner l'enfer. On en connaît beaucoup. La géhenne, le lac de feu, les tourments éternels, la honte, la seconde mort, le jugement éternel, la ruée éternelle, ou le mot dehors. Dehors, souvent dans les services funèbres, on prêche beaucoup sur le ciel et sur l'enfer. Un des mots les plus terribles de la Bible, c'est dehors. L'enfer, c'est d'abord être en dehors de la présence de Dieu, en dehors de son amour, en dehors de sa sainteté, en dehors de sa compagnie. C'est être en dehors de tout ce que Dieu peut donner, de la joie qu'il peut donner, des bénédictions qu'il peut donner, du pardon, de la paix, du bonheur qu'il peut donner. C'est en dehors d'une formidable relation avec Dieu et en dehors d'une communion avec des gens magnifiques qui ont fait le choix de vivre avec Dieu durant le temps de la terre. L'enfer, c'est être privé de la merveilleuse présence de Dieu, de sa merveilleuse communion et d'être privé de tous les gens que Dieu a créés pour qu'ils puissent vivre avec moi. Je vous ai mis ce verset où il est dit « Dehors, ceux qui se sont comportés comme des chiens. » Alors, souvent, on me dit « Mais c'est quoi ça ?» Alors, ça, ce sont des gens qui sont, dans le vocabulaire biblique, qui sont dans l'homosexualité ou dans la zoophilie. Vous savez que c'est très à la mode aujourd'hui, la relation avec les animaux. J'en dirai pas plus. Les magiciens, les fornicateurs, c'est-à-dire des gens qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. L'enfer, c'est un lieu inférieur à tout ce que Dieu avait prévu comme beauté pour moi. En dessous de tout ce pourquoi j'ai été créé, de tout ce pourquoi j'ai été fait. Dieu nous a tous créés, nous a tous prédestinés à être aimés, à être bénis et à aimer les autres. C'est ça la prédestination. Il y a des gens parfois en théologie qui discutent beaucoup sur la prédestination. Tu es prédestiné. Tu as été prédestiné à être aimé, à être béni et à aimer les autres. Mais tout le monde ne rentre pas dans ce pourquoi Dieu l'a fait ou ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est Jésus qui a le plus parlé sur l'enfer dans la Bible. Lui qui a montré tellement de grâce et tellement d'amour. Matthieu 25 dit ceci, « Ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle. On connaît bien ces passages. Le prophète Daniel proclame « Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour être un objet d'horreur éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Dans l'Apocalypse, il est dit « Mais quant aux lâches, aux incrédules, à ceux qui se sont souillés avec des abominations, comprenez des péchés dont on a parlé tout à l'heure, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux magiciens, aux idolâtres. » Un idolâtre, c'est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui n'est pas Dieu. Quelqu'un qui adore, quelqu'un qui n'est pas Dieu. D'accord ? À tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et dans l'évangile de Luc, il est dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Au cours de l'histoire de l'Église, dans les réveils qui étaient, les gens étaient dans la présence de Dieu, profondément bouleversés par la gravité de leurs péchés, par le fait d'avoir méprisé l'amour et la sainteté de Dieu. Ils criaient à Dieu. On parlait tout à l'heure du réveil méthodiste. Dans les rues, lorsque John Wesley prêchait, les gens hurlaient, criaient, parce qu'ils se voyaient en enfer. Et puis par le Saint-Esprit, Dieu ensuite leur montrait qu'il y avait un salut. Ils criaient, ils étaient horrifiés d'avoir provoqué tant de souffrances au Messie à Golgotha. Ils suppliaient Dieu de leur éviter le jugement et les souffrances de l'enfer. Et alors ils découvraient la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. Ils découvraient l'amour du Père Céleste et étaient émerveillés par l'amour du Père Céleste. Je dis ça parce que ne soyons pas superficiels et légers dans les notions que nous avons sur la grâce, sur l'amour de Dieu, sur la personne de Dieu ou sur sa sainteté. Méditons sur l'immensité des souffrances et sur la gloire de l'œuvre de Christ à la croix. On va lire aussi ce passage dans 2 Pierre où il est dit « Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attendant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Ça, c'est un verset qui m'a toujours gêné. Les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Dieu brûlera la terre et les cieux. Il refera tout. C'est un verset qui m'a toujours gêné parce que quand je pense à ma collection de vieilles Bibles, je me dis même ça, Dieu va même brûler mes vieilles Bibles. Même quoi. Hein? Bon. Alors. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. On aura peut-être là-haut de splendides bibliothèques. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui en paix. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. Lorsque nous fêtons Noël, nous le fêtons dans un monde où règne le péché. Mais en fêtant Noël, nous savons qu'il viendra un jour où nous serons dans une nouvelle création parfaite, où le mal n'existera plus. Et j'aimerais terminer avec ce quatrième point, des promesses en bas et en haut. Un formidable réveil qui vient, qui est déjà en route d'ailleurs. Des promesses, Dieu donne d'abondantes promesses pour le temps de la terre, des promesses en bas, pour équiper son église en bas et pour habiller son épouse encore sur cette terre. On connaît bien ces passages. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes verront des visions, vos vieillards, littéralement vos anciens, songeront en songe. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je montrerai des prodiges dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Luc 17 dit ceci, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Souvenez-vous des comas. Oh, Dieu nous demande de nous attendre à sa venue, d'aimer sa venue, d'aimer son apparition. Et puis, les promesses éternelles, les promesses éternelles en haut, les promesses pour le haut. L'Évangile, la Bible nous parle de l'éternité et utilise de nombreuses expressions pour nous parler du paradis. Avec une grande précision, la Bible parle d'une nouvelle création, de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, du paradis, de la maison du Père, d'une patrie céleste, etc. D'une cité dont Dieu est l'architecte et le créateur, une éternité de gloire et de magnificence. Nous avons lu tout à l'heure que ceux qui marchaient avec Dieu seraient comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et la Bible nous dit, chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Chacun recevra sa louange de la part de Dieu. C'est absolument immense. Nous serons dans un domaine de gloire phénoménale, magnifique et éternel. Et nous lisons dans Apocalypse 21, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant du ciel disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » À Noël, le Christ est déjà venu. C'était le début d'une immense et fabuleuse promesse. Ça commence avec un tout petit bébé, Bientôt, le Christ reviendra en Seigneur, chercher son Église. Chercher son épouse. En un clin d'œil, tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, fais-lui un clin d'œil. En un clin d'œil, les morts ressusciteront. En un clin d'œil, les morts ressusciteront. Et nous, les vivants, en un instant, nous serons tous changés, transformés, en une éternité de honte ou en une éternité de gloire. Le retour de Jésus, ce sera le formidable accomplissement, le formidable aboutissement des promesses de Noël. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, ma prière ce matin, notre prière, c'est que, Seigneur, nous soyons prêts, que nous soyons vraiment décidés, que assoiffés de voir ton retour, que nous puissions dire, Seigneur, viens, viens, Seigneur Jésus, viens. Nous désirons travailler, Seigneur, à de meilleures habitudes de vie, à gérer nos pensées, à avoir de nouveaux schémas de pensée selon toi, selon ta parole, à être honnête et droit devant toi, en sorte que lorsque, comme une immense lumière, tu viendras chercher ton Église, nous puissions partir avec toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. 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 Amen. Amen.